Bonjour, nous sommes les élèves de 4e 5 au Collège Alain à Marom.
Bienvenue sur la radio.
Bonjour, nous sommes Mathis
et Nolan. Nous allons vous présenter
l'homophobie,
la transphobie
et la biphobie. C'est quoi l'homosexualité ?
L'homosexualité, c'est aimer une personne du même sexe que soi. Homo égale même en grec. Cela concerne tout le monde. Avant, l'Église catholique condamnait les homosexuels, même parfois à mort. Les homosexuels sont aujourd'hui victimes de discrimination dans le monde, comme des rejets d'emploi, insultes, regards, violences, etc. Les homophobes ont souvent la haine et le dégoût des homosexuels. Les homosexuels sont victimes de violences verbales et physiques. Les Pays-Bas ont été les premiers en Europe à accepter le mariage homosexuel. Et du coup, c'est quoi la bisexualité ?
La bisexualité, c'est aimer une personne du même sexe ou d'un autre que soi. Comme les homosexuels ou les transsexuels, les bisexuels sont victimes de violences verbales et physiques.
Et pour finir, c'est quoi la transsexualité ?
La transsexualité, c'est une personne qui veut changer de sexe ou qui ne se sent pas bien dans son corps. Comme les homosexuels ou les bisexuels, les transsexuels sont victimes de violences verbales et physiques. C'est qu'au début des années 1980 que la France a décriminalisé les LGBT, contrairement à la Hongrie qui ne l'ont toujours pas fait.
1650 LGBT en France ont dit avoir été victimes de violences verbales et physiques dans leur vie, soit 4,8% de plus qu'en 2016. C'était Nolan et Mathis.
Bonjour.
Bonjour, nous sommes
Estelle
et Mathilde,
des élèves du Collège Alain,
de la classe 4e 5. Aujourd'hui, nous allons aborder différents sujets,
le genre, la transphobie, la biphobie et l'homophobie.
Estelle, dis-moi, c'est quoi la transphobie ?
C'est la haine contre les personnes transgenres.
C'est quoi une personne transgenre ?
C'est une personne qui n'est pas son genre et qui veut changer de sexe.
Mais c'est quoi le genre ?
C'est le sexe biologique d'une personne. Mathilde, pour toi, c'est quoi la différence entre la biphobie et l'homophobie ?
La biphobie, c'est la haine contre les personnes qui aiment autant les hommes que les femmes. Alors que l'homophobie, c'est la haine contre les personnes qui aiment les personnes du même genre qu'eux.
Mais ces personnes ne sont-elles pas victimes de harcèlement ou de discrimination ?
En effet, ces personnes peuvent être insultées dans la rue, moquées à l'école ou elles peuvent même être rejetées dans les métiers qu'elles veulent exercer. Parfois, même, le conflit débute dans la famille et l'entourage proche.
Elles peuvent aussi être victimes de violences physiques et morales.
Parfois, les filles et les garçons n'ont pas les mêmes pensées.
Ce n'est pas parce que tu es une fille que tu n'as pas le droit d'avoir des envies sexuelles.
De même pour les garçons. Ce n'est pas parce que tu en es un que tu dois être accro aux relations sexuelles. Si je suis une fille et que j'ai une libido très développée, je ne suis pas une...
Bip ! Si je suis un mec et que je ne suis pas prêt à faire l'amour, je ne suis pas un faible et ça n'enlève rien à ma masculinité.
Les hommes et les femmes sont tous différents, quels qu'ils soient.
Ce sont nos différences
qui nous rassemblent.
Au revoir !
Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 14 ans et je suis en 4e 5.
Bonjour, je m'appelle Stécie, j'ai 14 ans et je suis en 4e 5.
Et aujourd'hui, je vais vous parler du féminisme qui est malheureusement... est un sujet très présent de nos jours. Voici d'après moi quelques explications.
Les femmes se battent pour leur liberté et contre les violences conjugales ou sexuelles.
Des premières grandes manifestations féministes qui se sont tenues à Paris depuis 1936, environ 200 femmes manifestent à l'appel du MLF.
Le mouvement de libération des femmes, cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent en Amérique du Nord, en Italie et en Allemagne.
Les manifestants réclament la liberté sexuelle, une contraception et un avortement gratuit.
La Journée internationale des femmes est officialisée par les Nations Unies en 1977. Elle est également célébrée par un certain pays comme la France.
Cette journée de lutte remonte aux féministes du début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis.
Aujourd'hui encore, les femmes gagnent en moyenne 24% de la moitié du salaire d'un homme. Les femmes essaient de se battre contre les préjugés pour qu'elles puissent s'habiller à leur manière.
Pour conclure, nous observons que les femmes se battent pour une égalité homme-femme depuis 1977. Et bien que nous soyons en 2022, elles se battent encore pour leurs droits et leurs libertés.
Bonjour, nous sommes deux élèves de la 4e venant du Collège Alain, Max et Adem.
Bonjour, nous allons parler du sujet de l'égalité des salaires.
Dans le monde, les hommes gagnent 24% d'argent de plus que les femmes.
En France, ce pourcentage est de 13,6% de plus pour les hommes.
Il y a peu de femmes dans les postes à responsabilité et plus de femmes dans les métiers exigeant peu de diplômes.
Les hommes ont imposé pendant un long moment que les femmes restent à la maison et donc moins ont eu accès aux études supérieures.
Pour les métiers qui sont mal vus, il y a peu de discrimination, mais pour les métiers plus haut gradés, il y a des différences de salaire qui vont jusqu'à 20% de plus pour les hommes.
La majorité des chefs d'entreprise étant des hommes, il est facile pour eux d'imposer des bas salaires aux femmes et de les écarter des postes à responsabilité.
Selon les projections, dans 61 ans, les salaires seront à égalité en Europe. Conclusion.
Il faut faire en sorte que les femmes aient les mêmes droits du travail et les mêmes salaires que les hommes dans le monde.
Bonjour.
Nous nous appelons Amy et...
Et Priscilla, nous sommes en 4e 5.
Et nous allons parler des métiers filles-garçons.
Au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que certains métiers sont plus pour les garçons que pour les filles.
Vous savez qu'il y a plus d'hommes directeurs que de femmes ?
Et il y a plus de femmes dans des boulots exigeant moins de diplômes où l'on gagne moins.
C'est les hommes qui gagnent de l'argent et les femmes s'occupent de la maison et des enfants.
Voici des anecdotes. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes sont parties travailler.
La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également le droit de monter à la tribune.
Petite introduction du temps passé. En France, à force de batailles et au fil du temps, les femmes ont gagné des droits.
Quelques exemples. 1907, les femmes mariées peuvent disposer de leur salaire librement.
1944, les femmes obtiennent le droit de vote. Elles peuvent l'exercer pour la première fois l'année suivante.
1965, les femmes obtiennent le droit de travailler sans demander l'autorisation de leur mari. Elles peuvent aussi ouvrir leur propre compte bancaire.
2014, une loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes vise à combattre les inégalités qui perdurent, malgré tout dans tous les domaines.
Sensibiliser les adultes afin qu'ils se rendent compte de leurs erreurs.
Et apprendre aux plus petits et mieux éduquer les enfants de façon à ce qu'ils soient plus libres dans leurs choix.
Bonjour.
Je m'appelle Chloé.
Et je m'appelle Labelle. Nous venons du collège Alain. Nous allons vous parler de l'égalité des genres, et plus particulièrement d'une femme engagée dans la société du XXe siècle. Il s'agit de Simone Veil. Elle est née en 1927 à Nice. Elle est allée dans le camp de concentration d'Auschwitz avec toute sa famille, et elle rentrera malheureusement seule. En 1974, Jacques Chirac, alors Premier ministre, lui demanda de devenir ministre de la Santé. Simone Veil se bat pour que les femmes puissent disposer elles-mêmes et librement de leur corps, ainsi que d'avoir le droit à l'avortement médicalisé. La même année, elle défend ce droit devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée autorise ce droit le 17 janvier 1975.
En 1979, c'est la première femme à devenir présidente du Parlement européen de Strasbourg. Elle enchaîne des postes politiques haut placés, comme ministre. Elle a aussi des responsabilités au Conseil constitutionnel. Elle obtient le statut chevalier de l'Ordre du Mérite et grand officier de l'Ordre de l'Empire britannique.
Ainsi que la Légion d'honneur.
À 80 ans, elle écrit ses mémoires. Suite au décès de son mari, elle se retire de la vie publique. Elle meurt à 89 ans, chez elle, en 2017 à Paris. Et son dernier mot fut « Merci ». La société a été profondément changée grâce aux valeurs de Simone Veil. Elle est aujourd'hui au Panthéon pour avoir fait en sorte que l'avortement soit légalisé.
Grâce à elle, beaucoup de femmes ont pu améliorer leur quotidien. Je finis par sa citation la plus touchante. 60 ans plus tard, je suis toujours hanté par les images, les odeurs, les cris, l'humiliation, les coups et le ciel plombé par la fumée des crématoires.
Bonjour à tous, nous sommes Liam, Lubin, Clément, des élèves en 4e 5 du collège Alain à Maromme. Nous voulons vous présenter les femmes dans le sport.
Pour commencer, nous vous parlerons de Stéphanie Frappart, arbitre de Ligue 1 de football masculin, mais aussi de Charlotte Reignal, Cooper, grande joueuse de tennis et de la marathonienne Catherine Switzer.
Commençons par Stéphanie Frappart, qui est la première femme à arbitrer la Ligue 1 de foot masculin en 2019. La même année, elle a aussi arbitré la finale de mondial de foot masculin à Lyon. Nous trouvons qu'elle a eu l'audace d'arbitrer des matchs entièrement masculins, notons qu'il aura fallu plus de 100 ans pour voir une femme arbitrer.
Parlons ensuite de Charlotte Reignal Cooper, qui est l'une des 6 femmes à avoir participé aux JO de Paris en 1900. Elle gagne la médaille d'or du tournoi de tennis féminin et devient ainsi la première championne olympique de l'histoire. Il est important de préciser qu'ensuite, en désaccord entre la fédération de tennis et le comité olympique, les femmes ont été exclues des Jeux olympiques en 1896. C'est parce que les femmes se sont battues qu'elles ont pu participer aux JO de 1900.
Finissons par Catherine Switzer, qui est l'une des premières femmes à avoir couru le marathon de Boston en 1967. Pour participer, elle s'est inscrite sous un pseudonyme sans préciser qu'elle était une femme. Lors de sa course, certaines personnes ont essayé de l'arrêter. Mais grâce à son obstination, elle a réussi à franchir la ligne d'arrivée.
Ces trois exemples nous prouvent que la femme a sa place dans le sport, mais il a fallu se battre pour l'avoir. Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour, nous sommes deux élèves de la 4e 5, Anaïs et Firdaus. Nous allons parler sur l'égalité des sexes, le sport et les garçons manqués. Trois thèmes différents mais qui regroupent le même sujet qui est les stéréotypes de genre. Aujourd'hui, l'égalité des sexes a progressé partout, dans le domaine politique, économique, dans la santé et dans l'éducation. Mais nous ne sommes toujours pas parvenus à l'égalité réelle.
Au niveau politique, si tous les pays du monde ont accordé des droits aux femmes, ces dernières sont encore sous-représentées dans les assemblées. Elles détiennent que 21% des sièges au niveau mondial. Donc cette idée que le sexe féminin est le sexe faible et le sexe masculin le sexe fort reste malheureusement d'actualité. Le sport. S'il y a bien un domaine où le sexisme et les préjugés sexistes ont la vie dure, c'est le sport en général. Le sexisme dans le sport repose sur des croyances et des stéréotypes ancrés dans les mentalités.
Nous allons vous montrer une phrase d'un homme sexiste. Pour moi, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, ce n'est pas quelque chose de naturel. Pour l'équilibre des enfants, je pense que la femme est mieux au foyer. Les garçons manqués. Difficile de ne pas penser aux stéréotypes lorsqu'on évoque l'expression « garçon manqué ». Sous prétexte qu'une fille aime jouer au ballon ou aux petites voitures et qu'elle manie un pistolet, elle est aussitôt taxée de garçon manqué.
Si un garçon adore se déguiser en fille et jouer à la poupée, il ne sera jamais qualifié de « fille manquée ». Néanmoins, dans les deux cas, ces enfants risquent d'être mal compris et surtout stigmatisés. C'est ainsi que fonctionnent les préjugés et les stéréotypes, selon lesquels des caractéristiques bien définies sont attribuées à chacun des deux sexes.
En conclusion, nous pouvons voir que les clichés sont encore bien présents malgré les progrès obtenus et gagnés pour le droit des femmes.
Il reste un long chemin pour obtenir l'égalité des genres.
Nous sommes deux élèves de la 4e 5. Nous nous appelons
Evan
et Madicia. Nous allons vous parler d'un manga en 4 tomes créé par Gengoro Tagame, qui s'appelle « Le mari de mon frère », grâce à l'interview d'un élève de 3e de notre collège qui l'a lu. Pourquoi as-tu choisi de lire ce manga qui parle de l'homosexualité ?
C'est mon prof qui m'a obligé à le lire. Et comme je ne voulais pas le lire, il m'a parlé du sujet et j'ai été très intéressé.
Pourquoi as-tu lu ce manga ?
Comme je disais dans la première question, c'est un sujet qui me touche beaucoup.
Est-ce que tu peux me résumer un peu l'histoire du manga ?
C'est l'histoire d'une famille monoparentale composée d'un papa et de sa fille. Ça se passe au Japon, le mari du frère jumeau du papa arrive du Canada. Un beau matin chez eux, le papa Yashi n'est pas très content au début de le recevoir, car des souvenirs douloureux le submergeaient. Par contre, sa fille Kana, de 8 ans, adore son oncle. Les jours passent, le papa va de plus en plus apprécier le nouveau visiteur qui s'appelle Mike.
Que penses-tu de la lutte pour que les homosexuels aient plus de droits ?
Je trouve ça bien. Il faut qu'ils continuent à lutter pour avoir plus de droits, comme tout le monde. Ils doivent défendre leurs convictions.
Sais-tu, sur la couverture du manga, ce que veut dire le symbole du t-shirt de Mike, un des personnages principaux?
Ce symbole qui est un triangle rose à l'envers qui marque la lutte pour les droits des homosexuels.
Quelle réaction a Yashi quand il rencontre le mari de son frère?
Yashi n'est pas très content de voir Mike. Mike est le mari de son frère jumeau qui est décédé. Il se rapproche de n'avoir pas deviné l'homosexualité de son frère, parti il y a 10 ans au Canada pour vivre au grand jour son homosexualité, et maintenant son frère est mort. Il ne peut plus s'excuser. C'est dur pour lui.
As-tu bien aimé le lire ?
Oui, j'ai bien aimé le lire, car c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Les dessins sont bien, en plus, mais c'est l'histoire que j'ai préférée. Je le conseille à des personnes qui aiment lire, et surtout qui aiment les mangas. Il faut cependant être déjà sensible à l'homosexualité.
J'espère que vous allez lire le manga et que vous allez aimer l'histoire. Surtout qu'en France, on se fait harceler pour leur homosexualité. Ouvrez un peu vos esprits. Au revoir.
Bonjour, nous sommes Rachel,
Anaïs
et Chloé.
Nous venons du collège Alain.
Aujourd'hui, nous allons vous parler du sexisme et de ses conséquences.
Encore aujourd'hui, beaucoup de femmes sont impactées par ce problème et en parlent notamment sur les réseaux sociaux comme le hashtag balance ton porc ou encore hashtag MeToo.
Mais d'abord, qu'est-ce que le sexisme ? Le sexisme, c'est une façon de juger et d'agir en fonction du sexe.
Nous allons prendre quelques exemples. Encore aujourd'hui, un grand débat se dispute toujours, c'est le port du crop top et des tenues entre guillemets provocantes dans les établissements scolaires.
Dans les rues, le fait de se faire siffler ou même les regards insistants et les réflexions irrespectueuses.
De même pour les femmes dans leur milieu de travail et dans leur foyer, les réflexions de leurs collègues et de leur entourage qui sont insistantes. Mais alors, quelles sont les solutions pour lutter contre le sexisme ?
Tout est surtout une question d'éducation et de mentalité. Pour certains, c'est totalement normal ce qui arrive aux femmes.
Par contre, on peut faire bouger les mentalités, en parler, s'écouter et agir. Vous avez la possibilité de porter plainte pour agression sexuelle, un délit qui peut amener à une peine de prison et à une grosse amende.
Alors, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord pour une journée du printemps, de la jupe et du respect ? C'était
Anaïs,
Chloé
et Rachel. Merci de nous avoir écoutés, on espère que nos chroniques vous ont plu et intéressés.
C'était la 4ème 5, la meilleure classe du collège Alain, sur la radio RC2 à Marolles.